Chapitre 3. La conjuration. Ces débats avaient pris beaucoup de temps. On touchait à la seconde moitié de l'année, et Cicéron pouvait dire, dans son langage imagé, qu'après une navigation orageuse, il apercevait enfin la terre, lorsqu'éclata une tempête bien plus grave que celle auquel il venait d'échapper. C'est en effet dans les derniers mois de son consulat que la conjuration de Catilina a été découverte et punie. En réalité, elle devait couver depuis quelque temps, mais on ne la voyait pas, ou plutôt, on ne voulait pas la voir, car il y avait, au milieu de ces agitations perpétuelles, comme un parti pris de vivre au jour le jour et de ne pas s'inquiéter d'avance. Cette sorte d'obstination à n'en pas parler a pu faire penser qu'elle n'existait pas, et quelques historiens ont prétendu qu'elle n'a réellement commencé que vers le moment où on l'a découverte. Il est bien difficile de le croire, quand on sait combien l'organisation en était étendue et compliquée, qu'elle comprenait non seulement Rome, mais presque toute l'Italie, et qu'en Étrurie, on était parvenu à former des rassemblements de troupes assez considérables. Même en supposant que ces mouvements n'étaient qu'ébauchés quand la conjuration fut étouffée, il n'en reste pas moins que pour en concevoir l'idée, pour en commencer l'exécution, pour en mettre en train cette lourde machine, il semble que quelques semaines ou même quelques mois n'étaient pas suffisants. Nous ne saurons jamais d'une manière précise à quel moment Catilina conçut l'idée de sa conjuration et quand il a commencé à la réaliser. Contentons-nous de chercher de quelle manière elle est arrivée à la connaissance du public. Nous pouvons nous appuyer ici sur des textes précis. À l'époque où fut plaidé le procès en concussion intenté par les Africains à Catilina, on n'en avait aucun soupçon. Cicéron le dit formellement. On ne s'en doutait pas davantage dans les premiers mois de l'année 690, pendant la lutte que se livraient les candidats aux élections consulaires. Il n'en est question ni dans la lettre de Quintus, ni dans le discours de Cicéron, In toga candida, où il traite si mal Catilina. S'il avait su ce qui se tramait, il n'aurait certainement pas manqué de le dire. On voyait sans doute que Catilina se donnait beaucoup de mal pour attirer à lui toute une jeunesse sans ressources et sans scrupules. La peine qu'il prenait, les sacrifices qu'il s'imposait pour se les attacher, auraient dû, à ce qu'il semble, inspirer quelques inquiétudes et ouvrir les yeux sur ses desseins secrets. Mais il était candidat, et l'on pouvait toujours prétendre qu'il ne se donnait tant de mal et ne cherchait à réunir tant de partisans autour de lui que pour le succès de son élection. La même raison pouvait expliquer, jusqu'à un certain point, qu'il essaya de gagner à sa cause des villes de l'Étrurie, du Picenium, de la Gaule, Faisula, Arétium, Capoue. Nous venons de voir que l'Italie aussi envoyait des électeurs au Champ de Mars et que les candidats avaient intérêt à s'y faire des partisans. On était donc arrivé jusqu'au milieu de l'année 690 sans que l'existence de la conjuration fût soupçonnée. Et en effet, à ce moment, elle existait à peine. Catilina avait peut-être confié ses projets à quelques-uns de ses amis les plus sûrs, mais nous savons qu'au plus grand nombre, il ne faisait que des demi-confidences.
Je cite,
il les prenait à part, sondant les uns, encourageant les autres, leur montrant les ressources dont ils disposaient, la République sans défense, et combien le succès serait facile et profitable. C'est alors qu'après les avoir endoctrinés séparément, il réunit chez lui ceux sur lesquels il comptait le plus, c'est-à-dire les plus audacieux et les plus misérables, et leur dit ouvertement ce qu'il était résolu à faire. Salluste nous a donné la date de cette réunion, c'était aux environs du 1er juin 690, à peu près un mois avant l'élection qui allait mettre aux prises avec Cicéron. Il est bien probable que s'il sortit alors de sa réserve, c'est qu'il voulait enflammer le zèle de ceux qui allaient voter pour lui, et nous voyons en effet qu'en finissant son discours, il leur recommanda, je cite, de s'occuper activement de sa candidature. On raconta au premier moment qu'il s'était passé dans cette assemblée des scènes effrayantes. Catilina, disait-on, avait fait circuler parmi les assistants des coupes où le sang humain se mêlait au vin, et chacun d'eux y porta les lèvres en proférant d'horribles imprécations. Salluste doute beaucoup de la vérité du récit, mais comme il ajoute qu'il se faisait quelque chose de semblable dans les sacrifices ordinaires, il est possible que les complices, pour se lier entre eux d'une façon plus étroite, aient cru devoir emprunter à la religion des rites qui étaient en usage quand on faisait un traité d'alliance. L'imagination et l'épouvante publique ajoutèrent le reste. On alla bien plus loin dans la suite, et Plutarque prétendit sérieusement qu'ils avaient égorgé un homme, un esclave sans doute ou un enfant, et mangé sa chair. Une fois sur le chemin de l'horrible, la crédulité populaire ne s'arrête pas. Il n'était guère prudent de tenir au centre de Rome, dans le quartier du Grand Monde, à quelques pas du Forum, une assemblée nombreuse où l'on allait agiter le moyen de détruire la République. Catilina s'était contentée, pour prévenir les indiscrétions, de rassembler ses amis, je cite, « dans la partie la plus secrète de sa maison ». La précaution était insuffisante. Dans ce grand nombre de gens tarés qu'il attirait autour de lui, il pouvait se trouver des traîtres. Il devait nécessairement y avoir des bavards. Quelque chose de ce qui s'était dit dans la réunion se répandit dans le public. Suivant l'usage, on exagéra ces bruits en les répétant. Il arriva que des honnêtes gens s'indignèrent, que les riches prirent peur, et que tous ensemble se décidèrent à voter pour Cicéron, même ceux qui ne l'aimaient pas. Ce fut, dit Salluste, la principale raison qui le fit nommer consul. Il est naturel que l'échec de Catilina ait d'abord déconcerté ses partisans. Mais lui ne perdit pas courage. Il conserva cette indomptable assurance qui faisait sa force et parvint très vite à la faire partager par les siens. D'ailleurs, il ne se tenait pas tout à fait pour vaincu, puisque Antoine, son associé, avait réussi et qu'il croyait pouvoir compter sur lui pour tenir Cicéron en échec pendant tout le temps qu'ils gouverneraient ensemble. Il se remit donc à l'œuvre avec plus d'ardeur qu'auparavant. Nous ne pouvons guère douter cette fois, même quand sa lutte ne nous le dirait pas, que ce soit de la conjuration qu'il s'est occupé surtout. Il en avait livré le secret à ses affiliés, il était définitivement compromis, il ne pouvait plus se tirer d'affaire que s'il réussissait. Le temps ne lui manqua pas pour travailler au succès de son entreprise. Entre sa première tentative électorale sérieuse, où il fut vaincu par Cicéron, et celle de 691, dont nous parlerons plus tard, un an s'était écoulé, et pendant tout ce temps, il nous échappe. Dans les 5 mois qui suivirent l'élection, quand Cicéron était consul désigné, il n'est pas question de Catilina. On vient de voir que, dès le jour des calendes de janvier où les consuls entrent en charge, la lutte entre Cicéron et César commence. Catilina n'y prend aucune part, et l'on comprend bien qu'il n'ait pas pu s'en mêler. César se proposait de faire abolir ce qui restait des lois de Sylla. Pouvait-il associer à ce dessein un ancien Sillanien aussi décrié que Catilina? Cependant, il n'est guère admissible qu'un homme aussi entreprenant, dont on nous dit que son esprit ne se reposait jamais, soit resté si longtemps sans rien faire. C'est sans doute l'époque où il a dû organiser définitivement sa conjuration. Ce qu'elle était en réalité, et de quels éléments elle se composait, Salluste et Cicéron nous en donnent quelques idées quand ils nous disent que Catilina prétendait soulever à la fois Rome et l'Italie. C'était dans une seule conjuration 2 complots qui n'avaient pas tout à fait le même caractère, quoique conçus dans la même pensée et conspirant au même résultat. L'un devait grouper quelques grands seigneurs de la ville, l'autre rappeler aux armes les vieux soldats de l'armée de Sylla disséminés dans les campagnes italiennes. Ils avaient chacun d'eux leur organisation distincte, et leur rôle particulier, jusqu'au jour où ils devaient se réunir sous les murs de Rome pour tomber ensemble sur les aristocrates et les financiers, et les brûler dans leur palais. Étudions à part ces 2 catégories de conjurés. Il serait plus régulier sans doute de commencer par ceux de la ville. Ils étaient les plus près de Catilina, compagnons de ses plaisirs, confidents de ses projets, et ce sont certainement les premiers auxquels il a dû s'adresser quand la pensée lui est venue de tenter une aventure. Mais d'un autre côté, nous verrons qu'au moment décisif, c'est dans les conjurés d'Italie qu'il a eu le plus de confiance. Ils ont été en somme son dernier espoir et son meilleur appui. Si l'on se fie au récit de Salluste, c'est à eux qu'il songea d'abord après l'échec de sa candidature. Je cite « Son premier soin fut de leur envoyer des armes et de l'argent, qu'il emprunta sous son nom ou par le crédit de ses amis. » Fin de citation. Je vais donc m'occuper d'eux d'abord, il sera temps de revenir aux autres plus tard. Un des faits les plus importants de l'histoire de Rome à la fin du 7e siècle, c'est l'intervention de l'armée dans les luttes civiles. Il n'est pas sans intérêt de chercher à savoir comment elle s'est produite. Quelque réputation de sagesse qu'on ait faite à Rome, elle n'a jamais eu tout à fait la paix intérieure. La lutte est la vie des pays libres, il faut qu'ils s'y résignent. Pour règle générale, dit Montesquieu, toutes les fois qu'on verra tout le monde tranquille dans un État qui se donne le nom de République, on peut être assuré que la liberté n'y est pas. À Rome, le combat entre les plébéiens et l'aristocratie a commencé le lendemain de l'expulsion des rois et il a duré jusqu'à l'établissement de l'Empire. Mais il a eu des phases très différentes. Au début, les contestations étaient moins vives. Elles prenaient volontiers une forme que nous connaissons bien, celle de la grève. Le petit peuple quittait la ville, il se retirait avec l'armée sur l'Aventin ou le Mont Sacré, et l'on y attendait que la noblesse, qui ne pouvait pas vivre dans son isolement, fît des concessions, ce qui ne manquait pas d'arriver. Peu à peu, les choses se gâtèrent, et l'on en vint à l'émeute. Il faut pourtant remarquer que, jusque dans les scènes les plus tumultueuses des dernières années de la République, on retrouve le caractère du peuple chez qui elles se produisent. Elles affectent un certain respect de la loi, le souci visible de se rattacher de quelque manière à la Constitution, même quand on la viole. C'est toujours à la même occasion que la lutte s'engage, et sur le même champ de bataille qu'on en vient aux mains. Il s'agit d'enlever une élection ou de faire approuver une loi. Le moyen qu'on prend pour y réussir est toujours le même. On chasse à coups de pierre ou de bâton du Champ de Mars ou du Forum tous les gens du parti contraire, et l'on vote quand on est sûr d'avoir l'unanimité. Le procédé est violent, mais au moins on a voté, et les apparences sont sauves. La plupart n'en demandaient pas davantage. La grande difficulté consistait à prendre possession de la tribune et à s'y maintenir. On s'y installait dès le milieu de la nuit avec une bonne troupe et l'on empêchait les adversaires d'en approcher. Un récit fort curieux de Cicéron, qu'il a plusieurs fois reproduit, peut nous donner quelque idée de ce qui se passait dans ces grandes émeutes. Il y a quelque intérêt à comparer ce qu'il nous raconte à ce que nous avons vu chez nous. D'abord, celui qui voulait soulever la foule, un tribun d'ordinaire, ordonnait de fermer les boutiques. C'était sans doute pour enlever à ceux qui commençaient à déserter les assemblées politiques tout prétexte à rester chez eux. Jetés ainsi dans la rue, on pensait qu'ils ne trouveraient rien de mieux à faire que de se rendre au forum. De leur côté, les membres des clubs, il y en avait alors dans tous les quartiers, collegia compitalicia, se rendaient au lieu ordinaire de leur réunion. On les enrégimentait, on en formait des compagnies, on leur indiquait un lieu de rendez-vous. Tout cela se passait au grand jour, sans souci de la police, qui n'existait pas, au milieu d'un carrefour, auprès d'un tribunal où le prêteur rendait la justice. Des armes étaient préparées dans le temple de Castor, dont on obstruait les degrés pour qu'on ne pût pas les venir prendre, puis, quand on les avait distribuées aux complices, on les lançait sur la foule désarmée. Et ceux qui faisaient mine de résister, on les frappait sans pitié. Le lendemain, on était obligé d'éponger le forum, on jetait les morts par la bouche de l'égout de Tarquin, qu'on voit encore grande ouverte du côté de la basilique Julia, et le Tibre roulait des cadavres dans ses eaux ensanglantées. On comprend que ces violences qui épouvantaient les honnêtes gens aient souvent réussi. Elles ont fait les succès de Claudius et amené l'exil de Cicéron. Mais on dut s'apercevoir assez vite qu'elle ne procurait que des victoires passagères. À son tour, le parti vaincu, s'il était riche, répandait de l'argent dans les tribus, gagnait, en les payant, les habitués des clubs, enrôlait des gladiateurs ou des esclaves. Il n'avait qu'à user des mêmes moyens que ses adversaires pour provoquer une émeute en sens inverse, qui produisait des effets contraires, et c'était toujours à recommencer. On ne pouvait espérer obtenir une supériorité durable que si l'on possédait une force disciplinée, obéissante, qu'on fût sûr d'avoir toujours sous la main. Puisque la violence et la corruption disposaient des votes au forum, et que la foi politique qui liait les citoyens à un parti n'existait plus, il était naturel qu'on songeât à la remplacer par le respect et l'affection qui attachaient le soldat à son chef, et qu'on employât désormais l'armée pour arriver à la conquête du premier rang. Marius d'abord, puis Sylla, le firent avec succès, et ils en donnèrent l'exemple aux autres. Les grands ambitieux qui, vers l'époque du consulat de Cicéron, se disputaient le pouvoir, étaient bien décidés à faire comme eux, et nous voyons que tous cherchent le moyen d'avoir une armée à leur service. Pompée est pourvu. Il commande aux légions d'Orient, qui lui sont entièrement dévouées. S'il veut les amener en Italie, elles le suivront, et c'est ce qui épouvante ses rivaux. Crassus comprend bien que sa fortune ne suffira pas seule à lui donner la situation qu'il ambitionne. Il se souvient qu'il a fait la guerre avec honneur et veut s'y remettre. Il dépense de grosses sommes pour susciter une affaire en Égypte qui pourra lui fournir une occasion d'être mis à la tête d'une armée. Et comme il n'y réussit pas, il se jette dans cette folle expédition contre les Parthes où il trouvera la mort. Il semble que César ait eu d'abord la pensée de ne conquérir le pouvoir que dans les luttes intérieures. Et il s'obstine pendant plusieurs années à ne pas s'éloigner du forum. Mais probablement, la situation que Pompée s'est faite lui donne à réfléchir. Il voit bien qu'il n'aura pas raison des légions d'Orient avec des émeutes ou des bulletins de vote. Il songe un moment, comme Crassus, à tirer parti de l'affaire d'Égypte. Puis, arrivé au consulat, il machine la conquête des Gaules. Catilina devait penser comme eux. Il voyait bien de quel intérêt il était pour lui de disposer d'une armée. Mais comme il était pressé d'agir, il lui fallait la voir tout de suite, et les circonstances n'y étaient pas favorables. Rome se trouvait en paix avec le monde entier, ce qui lui était rarement arrivé, de sorte que, même s'il réussissait dans sa candidature, il n'avait guère de prétexte pour obtenir un commandement militaire important. D'ailleurs, était-ce bien à des légions qu'il devait s'adresser pour le genre de révolution qu'il préparait? Quoique fort peu scrupuleuse, elle pouvait y répugner. Il lui fallait des troupes d'un caractère particulier, prêtes à toutes les besognes. Ces troupes, il savait où les trouver. Il y avait partout dans les provinces italiennes, et spécialement en Étrurie, d'anciens soldats de Sylla auxquels le dictateur, on vient de le voir, avait libéralement distribué 120 000 lots de terre. Mais ces pillards de l'Asie avaient eu grand-peine à devenir d'honnêtes fermiers. Ils s'ennuyaient dans ces domaines qu'on leur avait donnés. Comme ils ne s'entendaient guère à les faire valoir, ils étaient criblés de dettes et tracassés par les créanciers. Ils regrettaient leur ancien métier qui leur avait été si profitable, et au premier signe qu'on leur ferait, ils étaient prêts à reprendre les armes. On savait bien qu'ils ne manqueraient pas de gens pour se joindre à eux. Partout, ils allaient trouver des mécontents, des révoltés qui s'associeraient à leur fortune. C'était surtout les anciens propriétaires des biens qu'après chaque victoire, le vainqueur s'était approprié, qui, se trouvant sans ressources, s'était fait brigand. Depuis la guerre sociale et les guerres civiles, toutes les routes en étaient infestées. Il y avait aussi les gladiateurs qu'on exerçait pour les jeux publics dans de grandes écoles et qui étaient toujours disposés à s'échapper dès qu'on entr'ouvrait la porte. Milon et beaucoup d'autres s'en formèrent comme une garde qu'ils amenaient avec eux sur la place publique les jours de vote et d'élection. Il y avait enfin les pâtres, qui gardaient les grands troupeaux dans les gorges sauvages de l'Apennin. Ils étaient pour les conspirateurs une très précieuse ressource. On racontait que le consul Antoine, qui passait son temps à s'enrichir par ses pillages et à se ruiner par ses débauches, ayant été réduit à vendre ses domaines et ses troupeaux, avait conservé les pâtres pour s'en servir quand il voudrait faire quelque mauvais coup. Voilà de quels éléments la petite armée de Catilina se composait. Le centre de ce mouvement militaire devait être Phae-Sulae, aujourd'hui Fiesole, au cœur de l'Étrurie. C'est là que Catilina réunit le gros de ses troupes, sous la conduite d'un ancien centurion de Sylla, Manlius ou Malius, dans lequel il avait une pleine confiance. Tout ce qu'on nous dit de ce Manlius, c'est que c'était un brave soldat et qu'il sut mourir avec courage. Nous venons de voir ce qu'on peut savoir, ou soupçonner, de ces troupes que Catilina avait réunies à Phae-Sulae. Les conjurés de Rome étant plus en lumière et portant de grands noms, nous avons plus de renseignements sur eux. Quand on connaît Catilina, on n'a pas de peine à imaginer comment tant de personnages importants s'attachèrent à lui. Pour ne pas remonter plus haut que ce qu'on appelle la première conjuration, nous avons vu que ce complot, qui n'était qu'un coup de main peu préparé et mal exécuté,
échoua
par l'impéritie de quelques-uns et la lâcheté du plus grand nombre. Catilina n'avait rien perdu à cet échec. Au contraire, il gagna de s'être fait mieux connaître. Parmi tous ces gens faibles, hésitants, il s'était montré vigilant, énergique, prêt à tout. C'étaient les qualités d'un chef de parti. Aussi est-il probable que tous ceux qui cherchaient fortune prirent alors l'habitude de se grouper autour de lui. Pendant les 2 années qui suivirent, il ne quitta pas Rome. Il dut en profiter pour accroître le nombre de ses partisans. Salluste en désigne quelques-uns à propos de cette réunion du mois de juin 690, où il nous dit que Catilina dévoila ses projets à ses amis. Il n'a pas sans doute la prétention de les nommer tous. Il prend les plus connus, les plus importants, ceux qui ont rempli les fonctions les plus élevées. Il s'y trouve 2 anciens consuls, des préteurs, des questeurs et d'autres membres du Sénat. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'ils appartiennent tous aux rangs les plus élevés de la société romaine. Ce sont des Cornelii, des Calpurnii, des Statilii, de proches parents de Sylla, un Cassius, un Gabinius, un Fulvius Nobilior, les gens les plus connus de Rome. On n'est pas habitué à voir tant de personnages de ce rang figurer ensemble dans un complot révolutionnaire. C'est le caractère particulier de la conjuration de Catilina. Elle est véritablement, comme l'appelle un poète de ce temps, un attentat de patriciens, patricium nefas. À ces grands noms, Catilina en ajouta d'autres après son échec aux élections de 690. On nous dit qu'il chercha alors à se faire des adhérents nouveaux, et ce qui prouve qu'il n'avait rien perdu de son prestige, c'est qu'il y réussit. Nous savons par Cicéron que, parmi ceux qui grossirent en ce moment son parti, se trouvait Caelius. La conquête était d'importance. Il n'y avait pas, dans la jeunesse de ce temps, de nom plus connu que le sien. Au forum, on avait peur de sa parole mordante, et il était déjà regardé comme un orateur redoutable. Cicéron, qu'il avait formé, lui reprochait de ne pas savoir se contenir. « Il est plus violent que je ne voudrais, » disait-il. Mais précisément, ses violences faisaient sa popularité. En même temps, c'était un héros de la mode. On remarquait l'élégance de sa mise, l'éclat particulier de sa tunique de pourpre, et il ne paraissait en public qu'entouré d'un cortège d'admirateurs et d'amis. Salluste ajoute que c'est alors aussi que Catilina s'affilia des femmes qui appartenaient au plus grand monde. Les détails qu'il nous donne à ce sujet, avec une certaine complaisance, sont de nature à piquer notre curiosité. Mais surtout, il provoque notre surprise, car nous avons toujours devant les yeux le type de la matrone romaine tel qu'il se trouve chez les historiens et les moralistes. Je ne sais si ce type a jamais été bien exact, ce qui nous le présente étant fort suspect de trop vanter l'Antiquité. Mais assurément, à l'époque où nous sommes, il avait tout à fait cessé de l'être. Le relâchement des mœurs publiques, l'habitude du divorce, la loi qui remettait à la femme la libre disposition de sa fortune personnelle pour qu'elle pût l'emporter quand elle quittait son mari, avait entièrement corrompu la famille. Aussi Catilina n'avait-il pas eu de peine à trouver dans la haute société de grandes dames, je cite, qui, après avoir longtemps satisfait tous leurs caprices en puisant dans la bourse de leurs amants, quand l'âge avait rendu leurs profits plus légers, s'étaient vues réduites à contracter des dettes immenses. Fin de citation. Elles avaient donc, pour entrer dans la conjuration, le même motif que tant de gens sans ressources, qui cherchaient à liquider une situation embarrassée par un bouleversement général. Mais il est vraisemblable qu'elles y étaient attirées aussi par la séduction qu'exerçait sur leur sexe celui qui en était le chef, et dans la vie duquel les femmes avaient tenu tant de place. C'est ce qui est arrivé plus tard, dans le complot formé contre Néron, et qui fut si près de réussir. Tacite nous dit qu'il comprenait non seulement des sénateurs et des chevaliers, mais encore des femmes qui s'y étaient engagées moins en haine du prince que par leur inclination pour Pison, un mauvais sujet du grand monde. La plus importante de ces femmes que Catilina entraîna dans sa conjuration paraît bien avoir été Sempronia, de la famille des Gracques, la mère de ce Decimus Brutus qui fut l'ami puis l'un des meurtriers de César. Salluste nous a fait d'elle un portrait composé, à sa manière, de petites phrases détachées que je veux reproduire, quoiqu'il soit bien connu, à cause du jour qu'il jette sur la société de ce temps. Je cite. « Sempronia, dit-il, a souvent commis des actions qui demandaient l'audace d'un homme. Elle avait reçu du sort la naissance et la beauté. Elle était heureuse en mari et en enfant, instruite des lettres grecques et latines. Elle savait la musique et la danse plus qu'il n'est nécessaire à une femme honnête, et possédait encore d'autres talents qui ne servent qu'à enflammer la passion. Mais il n'y avait rien qui lui fût plus indifférent que la décence et l'honneur. Elle en aurait grand peine à dire ce qu'elle tenait le moins ménagé de sa réputation ou de sa fortune. Elle cédait à ses désirs avec si peu de retenue qu'il lui était arrivé de s'offrir aux hommes plus souvent que d'être sollicitée par eux. Depuis longtemps, elle s'était habituée à manquer à sa parole, à nier avec serment une dette contractée, à se faire complice de quelques meurtres. La débauche et la gêne l'avaient précipitée jusqu'au fond de l'abîme. Et pourtant, son esprit ne manquait pas d'agrément. Elle faisait des vers, sa conversation était piquante, elle savait se servir à l'occasion d'un langage modeste, tendre ou provoquant. En un mot, c'était une femme pleine d'enjouement et de grâce. »
Fin de citation.
Dans ce portrait où les contraires se heurtent, on retrouve à la fois les deux Sallustes que nous connaissons. Celui des premières années, quand il combattait sur le forum les partisans des institutions anciennes, et qu'étant l'amant de la femme de Milon, qui, sans doute, ne valait guère mieux que Sempronia, il devait être disposé à plus d'indulgence pour elle. Et le Salluste vieilli, qui s'était fait le prôneur des vertus antiques, ou, comme le disait un de ses ennemis, le censeur impitoyable des vices des autres. Sans prétendre que la sévérité du moraliste repentant soit imméritée, il me semble qu'il y a autre chose dans ce qu'il reproche à Sempronia et à celle qui lui ressemblait que les emportements d'une nature passionnée. Peut-être faut-il y voir aussi la révolte de femmes éprises d'émancipation et qui cherchaient à opposer un idéal nouveau à celui de la matrone d'autrefois. Leur dessein est de conquérir toutes les attributions que d'injustes préjugés réservent ordinairement aux hommes. C'est un programme qui ne nous est pas inconnu. Elles veulent recevoir la même éducation, participer aux mêmes connaissances, jouir des mêmes libertés.
Quand elles sont de l'esprit, elles croient avoir le droit de le montrer. Elles ne pensent pas que la modestie de leur sexe leur fasse un devoir de se taire en société et de retenir le bon mot qui leur vient sur les lèvres.
Elles ont des amants, comme leurs maris ont des maîtresses, et ne se croient pas tenues d'en faire un mystère. On a vu du reste que le ménage de Sempronia n'en paraît pas fort troublé, et peut-être faut-il attribuer à la facilité du divorce cette tolérance réciproque. On s'accommode plus aisément d'une situation quand on sait qu'on pourra la faire cesser dès qu'on voudra. Chacun des époux vit de son côté et dispose de sa fortune comme il l'entend. La femme, qui n'est guère gênée par les tuteurs que la loi lui donne et qui ne sont le plus souvent que des complaisants ou des complices, administre ses biens à sa fantaisie. Elle vend, elle achète, elle prête, elle emprunte et elle ne rend pas. Pourquoi hésiterait-elle à imiter ce qu'on fait si souvent autour d'elle ? Soyons sûrs que Sempronia dut s'applaudir comme d'une conquête quand elle s'attribua le droit qui semblait plutôt réservé aux hommes de faire banqueroute. Je crois bien qu'en s'engageant dans la conjuration, c'était encore un privilège des hommes qu'elle prétendait usurper. Elle entrait dans la politique non pas en conseillère discrète et comme derrière un voile, ce qui était souvent arrivé, mais ouvertement au grand jour.
Prendre part à une œuvre de violence qui allait révolter les honnêtes gens, n'était-ce pas une façon éclatante de rompre avec l'ancienne société et d'affirmer son indépendance?
On voit bien les raisons que pouvaient avoir Sempronia et les autres pour écouter les propositions de Catilina. Mais Catilina, quel motif avait-il de les leur faire? Il est difficile de croire à Pien, qui nous dit qu'elle devait lui apporter l'argent dont il avait si grand besoin, quand on sait que la plupart d'entre elles n'étaient pas plus riches que lui. L'opinion de Salluste est plus vraisemblable. Il prétend que, comme elles avaient conservé, malgré leur détresse, un grand train de maison, ils voulaient profiter de cette multitude d'esclaves qui remplissaient leur demeure pour mettre le feu à Rome quand le moment serait venu. Salluste ajoute que Catilina comptait aussi sur elle pour gagner leur mari à sa cause, ou, s'il le refusait, pour les assassiner. Ce ton de parfaite indifférence avec lequel, à la fin d'une phrase, sans ajouter un mot, il nous donne ce détail atroce, montre bien qu'il n'en éprouvait aucune surprise. La femme romaine, en général, n'est pas tendre et douce de sa nature.
Dans celle que le paysan du Latium ou de la Sabine choisit, je cite, « pour lui donner des enfants »,
les qualités qu'il préfère sont le sérieux et l'énergie. Sur le théâtre de Rome, la grâce, la tendresse, la passion sont réservées aux courtisanes. La femme de naissance libre est d'ordinaire raisonneuse et revêche. Quoi qu'elle dise quelque part qu'elle s'incline, je cite, devant la majesté de l'homme, elle lui tient tête résolument. Elle s'insurge contre lui et l'histoire nous prouve qu'elle est allée quelquefois bien plus loin que de le chicaner. Est-il possible de comprendre que, pendant la guerre des Samnites, à la grande époque des vertus romaines, on ait découvert tout un vaste complot formé par les femmes pour empoisonner leurs maris? Tite Live ne l'a pas inventé, puisqu'il n'en parle qu'à regret, et il affirme que 170 d'entre elles furent convaincues et condamnées à mourir par les tribunaux de famine. Plus tard, dans l'affaire des Bacchanales, beaucoup de femmes furent compromises, et on les accusa de joindre aux folies du mysticisme oriental des crimes de toutes sortes. On comprend, quand on se souvient de ces précédents, qu'elles aient eu encore moins de scrupules à commettre des assassinats à une époque où l'assassinat était si fréquent parmi les hommes. C'était encore une manière de se mettre à leur niveau. Nous voudrions bien qu'il nous fût possible de pousser plus loin cette étude un peu sommaire. Il nous importerait surtout de pouvoir apprécier, au moins d'une manière approximative, la force réelle des différents groupes dont la conjuration se composait. Par malheur, les renseignements nous manquent ou sont incomplets et contradictoires. Même sur le chiffre exact du rassemblement qui s'était formé en Étrurie, quoiqu'il agît au grand jour et que par conséquent il fût plus facile de l'évaluer, les écrivains ne sont pas d'accord. Salluste prétend qu'au début il ne comprenait que 2000 hommes. Il ajoute, il est vrai, que ce nombre s'est vite augmenté. Cependant, il ne paraît pas croire qu'il ait jamais dépassé 10 à 12 000 hommes, puisqu'il dit que Catilina n'en forma que 2 légions. Plutarque et Appien parlent de 20 000 hommes, et ce chiffre paraît assez vraisemblable quand on songe aux troupes que le gouvernement crut devoir leur opposer. C'était déjà une petite armée, et destinée à s'accroître rapidement. À la vérité, le quart à peine possédait des armes véritables. Les autres se servaient de méchantes javelines, de faux ou même de bâtons durcis au feu. Mais c'était des soldats braves, résolus, le reste des vieilles bandes de Sylla. Nous savons que Catilina ne s'était pas contentée d'appeler aux armes l'Étrurie. Il semble qu'il avait le dessein de mettre le feu à l'Italie entière. Il entretenait des émissaires un peu partout, à Capoue, où l'on dressait des gladiateurs destinés aux jeux publics, à Ostie, pour soulever les équipages de la flotte, dans le Picenium, dans le Brutium, dans l'Apulie, dans la Gaule Cisalpine. Parmi ces émissaires, il y en avait un dont le nom mérite d'être retenu. Il s'appelait Publius Sitius de Nocera. C'était un personnage fort curieux qui, dans sa vie d'aventure, eut quelques belles journées. Il avait débuté par être un grand faiseur d'affaires financières, et il était, à ce qu'il semble, fort habile dans ce métier. Mais à côté de son commerce de banque, il en avait un autre qui lui rapporta bien davantage. Il réunit autour de lui, en Afrique, où il opérait, des mécontents, des proscrits, des gens que les guerres civiles avaient ruinés, et en forma un corps de troupes qui lui était entièrement dévoué. Il l'engageait, suivant les occasions, au service de ces petits princes africains que Rome laissait vivre et qui en profitaient pour se déchirer entre eux. Il se mettait aux enchères et passait sans scrupule d'un parti à l'autre. À ses pratiques de condottiere, il avait gagné un certain nom et de bons revenus. Un jour où César aborda en Afrique pour y combattre les vaincus de Pharsale, Sittius l'alla trouver avec ses bandes, et sous cette grande direction, l'aventurier, devenu un général habile et heureux, acheva la défaite des armées républicaines. Catilina ne s'était donc pas trompée lorsque, avant César, il avait pris Sittius pour un de ses lieutenants. Mais il fut moins heureux avec les autres. C'étaient des gens sans expérience, tourmentés du besoin d'agir plutôt que d'agir à propos, et qui échouèrent partout. « Ils s'agitaient sans réflexion, dit Salluste, et comme pris d'un vertige. Ils voulaient tout faire à la fois, tenant des conciliabules nocturnes, faisant transporter des armes au hasard, se hâtant sans motif, semant le trouble partout. En un mot, plus alarmant que dangereux. »
Fin de citation.
Là comme ailleurs, Catilina fut mal servie par les agents qu'il employait. Ce n'est pas une raison de méconnaître qu'il eut en général plus de succès dans ce qu'il fit directement par lui-même. Au temps des Philippiques, Cicéron le comparait à son nouvel ennemi, Antoine, et il disait que s'ils étaient aussi scélérats l'un que l'autre, il y avait chez Catilina plus d'intelligence et d'activité, et il vantait la rapidité avec laquelle il avait su se faire de rien une armée. Il faut remarquer que cette armée était surtout composée de vétérans. C'est leur première apparition dans l'histoire de cette époque. Ils vont y tenir une plus grande place encore avec Antoine et Octave.
Il n'en est pas moins vrai que c'est Catilina qui a compris le premier
le genre de service qu'on pouvait leur demander. Quant aux conjurés de Rome, comme il n'est guère question que des plus importants et qu'ils appartiennent tous à la haute aristocratie, nous sommes tentés de croire que la conspiration y resta sur ses hauteurs, que les gens du peuple n'y prirent aucune part et que c'était proprement un état-major sans soldats. N'oublions pas pourtant que tous ces grands personnages possédaient des clients, des affranchis, des serviteurs qui se groupaient autour d'eux et dont ils pouvaient faire profiter Catilina. Loin de dédaigner leur appui, nous avons vu qu'il travaillait à les rendre plus nombreux en cherchant à attacher à son parti quelques dames de haut parage qui tenaient un grand état de maison et disposaient d'un nombreux domestique. Comme ces projets n'ont pas été exécutés, qu'il n'a pas eu l'occasion de faire appel à leur dévouement, nous ignorons s'il pouvait compter sur eux et quel service il en aurait tiré. Au dernier moment, il s'éleva une contestation entre ses partisans et lui. Comme il était avant tout un soldat et qu'il avait le respect de l'armée, il résistait à ceux qui lui demandaient d'enrôler les esclaves dans ses légions. Il consentait à les appeler aux armes, mais à condition qu'ils feraient bande à part. Il les trouvait bons pour mettre le feu à Rome, et c'est pour cette besogne surtout qu'il acceptait leur aide. Quoi qu'il en soit, ni sur le nombre des grands seigneurs qui dirigeaient l'entreprise, ni sur celui des gens qui s'étaient mis à leur service, nous n'avons de renseignements précis. Les historiens qui nous citent des noms ne nous donnent aucun chiffre. Mais peut-être, après tout, est-il assez inutile de chercher à savoir si ceux qui s'étaient formellement engagés à Catilina étaient nombreux ou non, puisqu'on nous dit que ce qui faisait la force réelle du complot était moins la participation directe de quelques-uns que la connivence secrète de presque tout le monde. Cicéron le fait bien comprendre dans un passage très significatif de la seconde Catilinaire. Il veut y faire une énumération aussi complète que possible de ceux qu'il regarde de quelque manière comme des partisans de Catilina. Il les divise en 6 classes qu'il énumère et décrit l'une après l'autre. Mais quand on regarde de près, on voit bien que, de ces 6 classes, il n'y en a que 2 ou 3, tout au plus, qui soient composés de gens véritablement affiliés à la conjuration. Les autres ne la favorisent qu'en cachette. Ils sont prêts à s'y associer ouvertement le jour où elle éclatera, et si elle a quelque chance de réussir. À la rigueur, Cicéron a le droit de les dénoncer comme des complices, car Catilina ne tenterait pas son emprise s'il ne comptait sur eux. Pourtant, ce ne sont pas des conjurés véritables. Ils n'ont fait aucune promesse, ils ne sont liés par aucun serment. Ils attendent que les événements se dessinent. Cette disposition, que Cicéron attribue surtout aux grands seigneurs endettés et aux politiques déçus, Salluste l'étend à tout le peuple. Il affirme, je cite, que non seulement les conjurés, mais le peuple entier approuvaient les desseins de Catilina, et que pour peu qu'à la première rencontre le résultat parût incertain, la République était perdue.
Fin de citation.
Catilina le savait bien. Au-delà de ses adhérents décidés, des amis qu'il réunissait la nuit, je cite, dans un endroit retiré de sa maison, il apercevait la foule des autres, qu'il savait prêt à le suivre, et c'est ce qui lui donnait tant de confiance. Qu'importait le nombre de ceux qui jetteraient les premières torches, si la multitude, dès qu'elle verrait luire l'incendie, devait accourir à leur aide? C'est un signal qu'on attendait, et il suffisait de quelques gens résolus pour le donner. C'est là précisément ce qui fait pour Cicéron et le Sénat le danger de la situation. Ils savent que les conspirateurs sont prêts, qu'ils comptent sur la sympathie du plus grand nombre et qu'une émeute en quelques heures peut devenir une révolution. Ils ont bien raison d'être effrayés. Leur peur s'accroît de la difficulté où ils sont de se défendre. Contre tous les périls qui les menacent, ils sont désarmés. La loi qui leur ordonne de veiller à la sécurité de la ville ne leur en fournit pas les moyens. Rome ne possède pas de garnison. Les légions qui reviennent de la guerre sont obligées de rester en dehors de l'enceinte sacrée du Pomaerium. C'est à peine si l'on trouve auprès des portes quelques esclaves publics pour les fermer le soir et les garder, pour faire pendant la nuit quelques patrouilles qui n'empêchent pas les bourgeois d'être assassinés quand ils rentrent trop tard chez eux pour essayer d'éteindre les incendies, tâche dont il s'acquitte si mal qu'il s'est formé des corps de pompiers volontaires qui se font payer leurs services. Il y a sans doute un assez grand nombre d'employés subalternes. Dans un pays où l'on aime la représentation, comme à Rome, les magistrats ne sortent jamais sans être entourés d'un cortège. Ils ont des licteurs qui les précèdent, des appariteurs, des huissiers, des viatores, des accensi, mais toute cette escorte est plus destinée à leur faire honneur qu'à les protéger. Elle se compose de bons bourgeois, peu redoutables, qui ont acheté leurs charges, comme chez nous les avoués et les notaires, et sur lesquels on ne doit pas trop compter les jours d'émeute. Quant à la police politique, elle n'existe pas. Pour découvrir les complots contre la République, le consul ne peut compter que sur la trahison des complices. Heureusement pour Cicéron, les traîtres ne peuvent manquer dans un parti qui compte tant de gens malhonnêtes. Il eut la chance surtout d'en trouver un, dont Salluste nous parle, et qui lui fut fort utile. Je cite. Parmi les conjurés, il y avait Quintus Curius, appartenant à une famille distinguée, mais qui s'était déshonoré par toutes sortes de crimes et que les censeurs avaient chassé du Sénat pour sa vie scandaleuse. Cet homme n'avait pas moins de légèreté que d'audace. Il était incapable de taire ce qu'il avait appris ou même de dissimuler ses méchantes actions. Il ne prenait pas plus de soucis de ses paroles que de ses actes. Depuis longtemps, il était l'amant de Fulvia, une femme de grande naissance. Mais comme la gêne où il se trouvait le forçait d'être moins généreux, il en était moins bien reçu. Tout d'un coup, elle vit qu'il changeait de ton. Il prenait des airs superbes, tantôt lui promettant monts et merveilles, tantôt menaçant de la tuer si elle lui résistait, et se montrant plus arrogant qu'il ne l'avait jamais été. Fulvia chercha la cause de ce changement extraordinaire, et quand elle eut découvert que c'était la conjuration, elle comprit le danger que courait la République, et ne crut pas devoir garder le silence. Elle raconta ce qu'elle savait et comment elle l'avait appris, sans dire de qui elle le tenait. Fin de citation. Cicéron dut être un des premiers avertis. Il fit de grandes promesses à Fulvia, qui, quoi que dise Salluste, avait bien d'autres soucis que le salut de la République. Il obtint d'elle qu'il serait prévenu de tous les desseins de Catilina, et c'est ainsi qu'il parvint à les déjouer. Il s'est félicité à plusieurs reprises de cette heureuse chance et de l'adresse avec laquelle il en a su profiter. Salluste aussi lui en a fait un compliment, le seul peut-être qu'il lui adresse, et qui ressemble un peu à une ironie. Je cite. « Pour se tirer des dangers, dit-il, il ne manquait ni d'habileté, ni de ruse. » Pendant que Catilina s'occupait d'organiser sa conspiration à Rome et dans l'Italie, il avait pris une résolution dont nous sommes d'abord un peu étonnés. Il s'était décidé, avant de prendre les armes, à essayer encore une fois la fortune d'une élection. Peut-être avait-il tort de mêler ensemble un complot et une candidature, mais on a vu quel était le prestige de la dignité consulaire et que les plus audacieux conspirateurs hésitaient à tenter leur entreprise tant qu'ils n'en avaient pas été revêtus. Catilina, d'ailleurs, avait toujours les yeux sur Sylla, qui était son maître et son modèle, et il espérait arriver comme lui par le consulat au pouvoir suprême. Il se mit donc de nouveau sur les rangs aux comices électoraux pour 692. La lutte était sérieuse et les concurrents redoutables. Nous connaissons parmi eux Servius Sulpicius, le plus grand jurisconsulte de ce temps. Decimus Junius Silanus, un honnête homme, sans grand éclat, mais riche et généreux, qui, pendant qu'il était édile, avait donné des jeux dont on se souvenait. Enfin, Licinius Murena, lieutenant de Pompée, dont le père avait servi avec honneur sous Sylla en Asie et triomphé de Mithridate. Le succès de Silanus paraissait certain. C'était un de ces hommes de second ordre qui n'inquiètent personne. Sulpicius l'emportait par son illustration sur tous ses rivaux, mais il était surtout apprécié des gens instruits et délettrés qui lui savaient gré d'avoir essayé d'introduire un peu de philosophie dans le droit romain. Malheureusement, c'est un genre de mérite auquel le suffrage universel devait être peu sensible. De plus, on lui reprochait quelques-uns des défauts de sa profession, un respect peut-être trop scrupuleux de la légalité et un esprit de chicane. Il voyait des délits partout et menaçait sans cesse les gens de leur faire des procès. Il obtint que Cicéron, son ami, fit voter une loi nouvelle et plus rigoureuse contre la brigue, quoiqu'il y en eût déjà un très grand nombre qui ne passait pas pour très douce. Cette loi, qui prit le nom de son auteur, l'ex Tullia de Ambitu, aggraver les peines prononcées contre les candidats qui se permettaient de donner des jeux et des festins au peuple ou payer les pauvres gens pour leur faire cortège et, s'ils en étaient convaincus, les condamner à l'exil. Malgré ces menaces, la loi Tullia ne fut pas plus efficace que les autres. On n'a pas encore trouvé le moyen de supprimer les fraudes électorales. Elle n'eut d'autre résultat que de montrer les inquiétudes de Sulpicius et d'éloigner de lui ceux qui ne votent volontiers que pour les candidats qui ont des chances. Murena, au contraire, qui était un soldat, menait la campagne électorale avec plus de rondeur et d'adresse. Il devait plaire à la populace par l'ascendant qu'exerce toujours sur elle la décision et la belle humeur. Il est bien probable aussi qu'il avait moins de répugnance à répandre sur ceux qui en avaient besoin quelques libéralités opportunes. Habile à se tenir sur les confins de la loi, il fit donner des jeux et offrir des repas au peuple par ses amis et ses parents. Enfin, il sut se servir à propos du nom de Pompée, son général, qui était alors très populaire, et du prestige de la guerre d'Orient, qui venait de s'achever d'une manière si glorieuse. La lutte électorale, dont nous ne connaissons pas tous les incidents, dut être très vive. Catilina payait d'audace. Soit par une sorte de forfanterie qui lui était naturelle, soit qu'il entra dans ses vues d'effrayer de plus en plus les peureux, il ne prenait pas la peine de dissimuler ses projets. Dans une séance du Sénat, Caton l'ayant menacé de le traduire devant les tribunaux, il répondit fièrement, je cite, « Si l'on essaye de mettre le feu à l'édifice de ma fortune, j'éteindrai l'incendie sous les ruines. » Vers le même temps circulèrent des propos violents, pleins de menaces, qu'il aurait tenu dans une réunion des gens de son parti et qui répandirent l'alarme dans Rome. Cicéron, qui était parfaitement informé de tout, résolut d'en profiter. C'était justement la veille de l'élection. Il demanda qu'elle fût retardée, alléguant sans doute qu'il pourrait être dangereux d'y procéder le lendemain. Le Sénat y consentit avec empressement. Il paraissait plein de bonne volonté, décidé à prendre des mesures énergiques. Mais quand, deux jours après, il se réunit de nouveau, ses dispositions n'étaient plus les mêmes. La nuit avait porté conseil. Cicéron ayant demandé à Catilina de s'expliquer sur les paroles qu'on l'accusait d'avoir dites, il ne prut pas la peine de les démentir ou de nier les desseins qu'on lui prêtait, Et il répondit avec arrogance, je cite,
« Il y a deux corps dans la République, l'un qui est faible, avec une tête qui ne vaut pas mieux que lui. L'autre est plein de force, mais il n'a point de tête. En reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi, c'est mon devoir de lui en servir, tant que je vivrai. »
Ces provocations furent accueillies par des murmures unanimes, et personne n'osa proposer de le mettre en jugement. Et il sortit avec un air de triomphe. On ignore l'époque où se fit l'élection, mais du moment que Catilina n'était pas poursuivie, il n'y avait pas de raison de la reculer indéfiniment. Elle dut avoir lieu au mois d'août ou de septembre. Catilina conserva jusqu'à la fin son assurance. Il marchait la tête haute, la figure joyeuse, au milieu de cette brillante jeunesse qui le suivait partout, escorté de délateurs et d'assassins, fier de traîner après lui toute une armée de gens qui lui étaient arrivés d'Arétium et de Phaé-Soulaé, car il avait fait venir d'Étrurie pour la circonstance Manlius avec une partie des siens. Il espérait bien que l'élection ne se passerait pas sans quelque bataille, et surtout il avait donné l'ordre que le consul n'en sortît pas vivant. Mais Cicéron était prévenu, et il avait pris ses précautions. Tous les jeunes chevaliers formaient comme une garde autour de lui. Pour montrer aux conjurés qui n'ignoraient pas leur projet et faire connaître aux bons citoyens que sa vie était menacée, il s'était couvert d'une cuirasse brillante qu'on entrevoyait sous sa toge. Est-ce, comme il se plaît à le supposer, la sympathie qu'on éprouvait pour lui et le sentiment du danger qu'il venait de courir qui décida les électeurs? Toujours est-il qu'avec l'inévitable Silanus, ils nommèrent Murena et que Catilina fut encore une fois battue. La lutte eut un épilogue. Sulpicius, qui avait naturellement une très bonne opinion de lui-même et regardait la science où il excellait comme forte au-dessus de tout le reste, ne pouvait pas comprendre comment on avait préféré un soldat à un jurisconsulte. Et il se persuada très vite que Murena ne pouvait devoir son succès qu'à des manœuvres coupables. Avec l'aide de Caton, un grand homme de bien mais un assez petit esprit, il s'empressa de le déférer aux tribunaux. Cicéron, qui avait jusque-là soutenu Sulpicius, une fois que Murena fut nommé, n'hésita pas à prendre sa défense. Il avait raison. On ne devait pas faire courir de nouveau la chance à la République de tomber entre les mains de Catilina. Il fallait qu'au calende de janvier, elle eût ses deux consuls pour la protéger. Ce plaidoyer était donc une bonne action, ce fut en même temps un fort beau discours. Il n'en a guère prononcé de meilleur. On ne revient pas de la surprise qu'on éprouve en le voyant dans des circonstances si graves, c'était probablement entre la seconde et la troisième catilinaire, au milieu des inquiétudes mortelles que lui causait la conjuration, quand sa vie était à chaque instant menacée, se charger d'une affaire criminelle et la plaider avec tant de verve et de bonne humeur. Mais ce n'était pas une charge pour lui, c'était un divertissement et une distraction qu'il se donnait. Il était heureux de s'évader, un moment, de la politique pour retourner à ses débats judiciaires qui étaient son domaine naturel. Du premier coup, dès qu'il y mettait le pied, il retrouvait sa liberté d'esprit, sa gaieté, sa malice et oubliait tout le reste. Sans doute, Sulpicius et Caton étaient ses amis. Mais n'est-ce pas de ses meilleurs amis qu'on connaît le mieux les défauts? Il savait par une expérience de tous les jours qu'il y avait chez le bon Sulpicius un fond de légiste vétilleux et de doctrinaire gourmé, que l'honnête Caton était le plus têtu et le plus maladroit des hommes, et il ne résista pas au plaisir de le dire. On dut rire de bon cœur au forum en entendant ces portraits du jurisconsulte qui débite solennellement ses petites formules et du stoïcien rigoureux qui proclame, je cite, que toutes les fautes étant égales, on n'est pas plus coupable d'étrangler son père que de saigner un poulet sans nécessité. On oubliait que, dans ce charmant discours, il semblait que l'orateur prit plaisir à se démentir à chaque instant, qu'il y plaidait pour un homme qu'on accusait, non sans quelque apparence, d'avoir violé la loi Tullia, c'est-à-dire une loi qu'il venait lui-même de faire et qui portait son nom, qu'il y soutenait fort spirituellement qu'un soldat est plus important pour la République qu'un homme qui ne s'occupe que des arts de la paix, à la veille du jour où il allait écrire le fameux vers « Cedant arma togae ». Mais les contradictions ne lui coûtaient guère, et on ne lui en tenait pas rigueur. Murena fut acquittée. La lutte était donc finie. Catilina n'avait plus aucun moyen de rester dans la légalité, et il se trouvait définitivement enfermé dans sa conjuration. Puisqu'elle va devenir désormais sa seule occupation et sa dernière ressource, c'est le moment, à ce qu'il me semble, de l'étudier de plus près et d'en préciser, s'il se peut, le véritable caractère. Le programme de Catilina n'a pas été probablement conçu d'un seul coup, et il a dû se modifier selon les circonstances. On peut soupçonner, par exemple, qu'il n'était pas tout à fait le même pendant ses candidatures
qu'après son échec.
Cependant, Salluste laisse entendre qu'au fond, ses intentions n'ont guère changé et que, candidat ou non, il se proposait d'aller reprendre à cette poignée de privilégiés qui s'étaient installés dans les hautes charges de l'État la fortune qu'elle y avait gagnée pour la donner à ses amis. Je cite « Voilà, lui fait-il dire quand il les réunit pour la première fois, ce que je ferai avec votre aide quand je serai consul. » Ce qui signifie clairement que le consulat n'était pour lui qu'un moyen de réaliser plus aisément ses projets antérieurs. Mais si, au fond, les projets restaient le même, il est évident qu'étant au pouvoir, tout lui eût été plus facile et qu'il n'aurait pas eu besoin de recourir aux mêmes violences. Dans tous les cas, s'il a changé, il ne nous est pas possible de tenir compte de ces variations que nous ignorons entièrement. Bornons-nous à connaître ses derniers desseins, ceux qu'il a formés et qu'il exposait à ses amis pendant les derniers temps, quand il n'avait plus aucun ménagement à garder. Les contemporains, quand ils nous parlent de la conjuration, se contentent de lui prodiguer les qualifications les plus dures. Ils l'appellent Atrox, Nefaria, Tétra, Horribilis, ce qui ne nous apprend guère que la frayeur qu'elle leur causait. Salluste, pourtant, nous donne un renseignement plus précis et dont nous pouvons profiter quand il nous dit au début de son livre qu'il a été décidé à choisir le sujet qu'il va traiter par la nouveauté du crime qui fut alors tenté et du péril que connut la République. Sceleris et periculi novitate. Il lui semblait donc que la conjuration de Catilina avait ce caractère particulier de différer des précédentes, et pour la connaître, il nous faut, avant tout, chercher à savoir ce qu'elle avait de nouveau. On est d'abord frappé de voir que, contrairement à ce qui était arrivé jusque-là, la politique proprement dite y tienne si peu de place. Cicéron soutient, dans un de ses moments d'optimisme, qu'après toutes les concessions que le peuple a obtenues, il n'y a rien qui puisse le séparer des hautes classes de l'État, qu'il ne lui reste plus rien à désirer et qu'il n'a pas de motif de faire des révolutions nouvelles. C'est aller bien loin, d'autant mieux qu'on fait souvent des révolutions sans motif. Il est pourtant certain qu'en ce moment, les graves questions de politique intérieure, pour lesquelles on avait livré tant de batailles, étaient résolues ou près de l'être. Depuis longtemps, la plèbe avait conquis l'accès à toutes les fonctions publiques, et si l'aristocratie, grâce au prestige dont elle jouissait encore, continuait d'accaparer les plus hautes dignités, le succès de Marius et de Cicéron aux comices consulaires prouve qu'il n'était pas impossible de les lui arracher. À la suite de la guerre sociale qui venait de finir, les Italiens avaient obtenu le droit de cité romaine, et les quelques pays, comme la Gaule cisalpine, qui ne le possédaient pas encore dans sa plénitude, ne devaient pas tarder à le recevoir. Le peuple était donc à demi satisfait, et il était naturel qu'il commençât à se désintéresser des questions qui passionnaient ses pairs. Aussi n'en trouve-t-on aucune trace dans les programmes qu'on prête à Catilina. Il n'y est fait aucune allusion, ni aux lois agraires, ni à la puissance tribunicienne, ni aux privilèges des classes, ni à des réformes dans la Constitution. On ne voit pas non plus qu'il se soit abrité sous quelque grand nom populaire comme ses prédécesseurs le faisaient volontiers. Ils y trouvaient ce double avantage d'hériter des partisans que le personnage avait laissés et de résumer tout leur programme en un seul mot. Il avait suffi à César de dire qu'il venait venger Marius pour se trouver tout de suite à la tête d'un parti. Catilina ne semble pas s'être mis derrière personne. Qui donc, en effet, aurait-il choisi pour patron? Il ne pouvait songer à Marius, dont il avait si cruellement traité les derniers amis. Quant à Sylla, son ancien maître, quoique évidemment il procède de lui et s'inspire de son souvenir, il ne pouvait pas s'autoriser ouvertement de son nom au moment même où il venait combattre cette faction aristocratique qui prétendait sauver ce qui restait de son œuvre et continuer sa politique. Que voulait-il donc faire? Pour en être parfaitement informé, il aurait fallu se glisser avec ceux de ses partisans dont il était le plus sûr dans cette partie retirée de sa maison où il les réunissait, assister à cette assemblée de famille, contio domestica, comme l'appelle Cicéron, l'entendre exposer ses plans avec cette fermeté et cette franchise auxquelles ses adversaires mêmes rendent hommage. Par malheur, nous sommes réduits à recueillir et à reproduire en essayant de l'interpréter ce que les écrivains de ce temps ont pu en savoir et ce qu'ils veulent bien nous en dire. Dans deux passages très importants de son petit livre, Salluste nous renseigne sur les projets de Catilina. L'un est la lettre de Manlius, le chef des conjurés d'Étrurie, à Quintus Marcius Rex, ancien consul. Le ton en est respectueux et modéré. C'est un centurion qui s'adresse à un général. Il n'y faut chercher que la plainte un peu affaiblie de petites gens que la misère a poussés à la révolte et qui s'en excusent. Ils prennent les dieux et les hommes à témoin de leurs bonnes intentions, leur requête est modeste. Il ne s'agit plus, comme du temps où les plébéiens se retiraient sur le mont sacré, de demander une part dans le gouvernement de la cité. Il leur suffit qu'on ne les mette plus en prison quand ils ne peuvent pas payer leurs dettes. La loi le défend, mais ni les usuriers ni le prêteur ne respectent la loi. Ce sont, au moins en apparence, des révoltés timides et qui paraissent décidés autant que possible à ne pas sortir de la légalité. Catilina parle d'une autre façon dans le discours que Salluste lui fait tenir aux conjurés de Rome à l'époque de sa candidature consulaire. Il n'a autour de lui que des amis sûrs. Il peut leur dire ce qu'il pense et leur annoncer ce qu'il veut faire. Pourquoi la lecture de ce discours, dont la réputation a été si grande autrefois parmi les lettrés, nous produit-elle aujourd'hui moins d'effet? C'est qu'en réalité ce n'est pas Catilina lui-même que nous entendons, mais Salluste, et qu'il s'exprime en orateur d'école plus qu'en conspirateur. Il n'y a plus rien à dire sur cette habitude des historiens anciens de prêter à leurs personnages des discours de leur invention. Nous la condamnons aujourd'hui, mais les gens de leur époque leur en faisaient de grands compliments, et il est bien probable que les histoires de Salluste étaient surtout lues à cause des discours qu'elles contenaient. Celui de Catilina, qui est l'un des plus renommés, peut nous faire comprendre de quelle façon ils étaient ordinairement composés. Les écrivains, qui n'étaient que de purs rhéteurs, se contentaient de fabriquer des pièces d'éloquence pour faire admirer leurs talents. Les autres, comme Salluste et Tacite, cherchent à les accommoder à la situation véritable. Ils font dire à celui qui parle, sinon ce qu'il a dit réellement, au moins ce qu'il a dû dire, en sorte que ces discours ne sont pas sans utilité pour les historiens de nos jours et qu'ils peuvent être consultés avec profit, pourvu qu'ils le soient avec précaution. C'est ce que nous montre fort bien celui de Catilina. Il s'y trouve certainement de la rhétorique, c'est-à-dire une certaine façon de remplacer le détail exact par des généralités brillantes. Il arrive, par exemple, qu'à un moment l'orateur paraît oublier le genre particulier de grief dont se plaignent ceux qui l'écoutent, et, comme d'ordinaire, on ne se révolte que pour échapper à une oppression, il les excite, en phrases retentissantes, à reconquérir leur liberté.
« En illa, illa !» Quam saepe optastis libertas.
Mais il ne s'agissait pas pour eux de briser leur fer. Ni Lentulus, ni Autronius, qui avaient été consuls, ni les autres n'étaient esclaves. Dans l'état de désorganisation sociale où l'on se trouvait, la liberté était ce qui leur manquait le moins.
Ils avaient besoin d'autre chose.
On le voit bien, du reste, dans le discours lui-même, tel qu'il est, si l'on néglige les formes oratoires, qui sont une nécessité du genre, et qu'on aille droit au fond des choses. Que reproche en réalité Catilina à cette faction d'aristocrates qui détiennent le pouvoir, sinon d'accaparer la fortune publique et de ne pas lui en laisser une part? S'il leur en veut d'occuper les plus hautes dignités, c'est qu'ils y trouvent l'occasion de s'approprier tout l'argent que les rois, les tétrarques, les nations vaincues payent à la République. Je cite, « Qui peut souffrir qu'il regorge de richesses et qu'il les dépense sans compter à couvrir la mer de construction, à aplanir des montagnes, tandis que nous manquons des choses les plus nécessaires à la vie? Ils bâtissent plusieurs palais à la suite les uns des autres, pendant que nous n'avons pas même quelque part un foyer de famille. Ils ont beau faire toutes les folies, acheter des tableaux, des statues, des vases ciselés, démolir les maisons qu'ils viennent de construire pour en élever de nouvelles. Ces bourreaux d'argent, malgré leurs efforts, ne réussissent pas à venir à bout de leur fortune. Et nous, quel est notre lot? La misère chez nous, les dettes au dehors, un triste présent, un avenir plus triste encore. C'est à peine s'il nous reste ce misérable souffle qui nous fait vivre. Il me semble donc que ce discours, quand on sait le lire, contient la pensée de Catilina. Elle est plus visible encore dans les quelques lignes dont Salluste le fait suivre. Il suppose que quelques-uns des conjurés, à qui sans doute la rhétorique était un peu suspecte, et qui tenaient à bien savoir à quoi ils s'engageaient et sur quel profit ils pouvaient compter, demandèrent au chef de parler plus nettement et sans phrase. Il leur promit alors, dit Salluste, la diminution ou l'abolition des dettes, la proscription des riches, la possession des sacerdoces, des magistratures, le pillage et tout ce que peut se permettre dans des luttes pareilles le caprice du vainqueur.
Fin de citation.
Voilà en quelques mots et sans artifice le programme de Catilina. Nous souhaiterions sans doute que ce programme nous fût parvenu dans la forme qu'il lui avait donnée. Nous saisirions mieux la portée de ce qu'il préparait, nous entrerions plus avant dans sa pensée, si nous l'entendions nous-mêmes dans ses entretiens avec ses amis, dont parle Salluste, quand il déblatérait contre les honnêtes gens, et qu'ensuite, prenant chacun des siens à partie, il adressait des compliments aux uns, rappelait aux autres leur misère ou leur passion favorite, ou les dangers et l'infamie auxquels les exposaient leurs affaires embarrassées, qu'enfin il faisait des tableaux séduisants de la victoire de Sylla, dont les plus anciens d'entre eux avaient profité. Et comme, en même temps, il annonçait que ce qui s'était passé alors pourrait revenir, et que la République leur serait de nouveau livrée comme une proie, on comprend la joie de cette bande d'affamés qui écoutait ses promesses réconfortantes. Par malheur, nous n'avons de Catilina qu'une lettre de quelques lignes qu'il adresse à Catulus en quittant Rome. On y lit ces mots très significatifs.
Je cite « Rebuté par les injustices et les affronts, privé du fruit de mes travaux, je me suis fait, selon mon habitude, le défenseur public des misérables. »
Fin de citation.
Voilà une véritable profession de foi. Elle est expliquée et commentée par quelques propos qu'il avait tenus dans une réunion de ses partisans et que Cicéron a rapportés. « Les malheureux, disait-il, ne peuvent être fidèlement défendus que par quelqu'un qui soit misérable comme eux. Les promesses des gens riches et puissants ne doivent pas inspirer de confiance aux citoyens pauvres et ruinés. Que ceux qui veulent réparer leurs pertes et rentrer dans leurs biens tiennent surtout compte, dans celui qui doit les conduire, de ce qu'il a perdu lui-même, de ce qui lui reste, de ce qu'il est capable d'oser.
À des misérables, il faut un chef misérable et audacieux qui marche à leur tête.
Fin de citation.
Cicéron nous dit que ce langage frappa Rome de terreur. Ce n'était pas celui des agitateurs ordinaires, et même ceux qui avaient dit à peu près les mêmes choses les disaient d'un autre ton.
En parlant ainsi, Catilina répudie la tradition des Gracques, ces démagogues du grand monde.
Il se sépare avec éclat de César et de Crassus, qu'il déclare impropre à soutenir la classe populaire. Il tient à marquer l'originalité de son œuvre et ne s'adresse plus, comme ses prédécesseurs, aux passions politiques. C'est un mouvement social qu'il veut soulever. Mais qui sont ces « misérables » sur lesquels il insiste avec tant de complaisance et dont il tient à se déclarer le chef? Aujourd'hui, nous ne serions pas en peine pour le dire. L'idée nous viendrait tout de suite qu'il veut parler de ces gens si nombreux dans notre société, qui vivent péniblement de leur salaire quotidien, ouvriers des ateliers,
des fabriques,
des manufactures, employés du petit commerce,
travailleurs des champs,
qui après avoir été longtemps les opprimés, sont en train de devenir les maîtres, et seront demain peut-être les oppresseurs. Mais n'oublions pas que nous sommes à Rome, où il y a peu de commerce et presque pas d'industrie, que dans ces pays d'esclavage où le travail manuel est déconsidéré, parmi ces aristocrates dédaigneux, on se moque volontiers de ces pauvres gens qui restent tout le jour sur leurs chaises, ces loularis, en face de leur travail, et font de mauvais soldats. Ce n'est pas pour eux que Catilina risquerait sa vie. Ceux qu'il appelle des « misérables » sont les gens ruinés, sans ressources, qui ont fait des dettes et ne peuvent pas les payer. Cicéron nous dit qu'il n'y en a jamais eu autant à Rome qu'à cette époque. Ils s'en trouvent à tous les rangs de la société. En bas, ce sont les victimes de la petite usure, ces paysans qu'on a peu à peu chassés de leurs champs, ces colons à qui l'on a distribué des terres, mais qui n'ont pas su les cultiver, et sont vite devenus la proie des usuriers des villages, les plus malhonnêtes et les plus cruels de tous. Manlius, en effet, leur interprète dans cette lettre à Quintus Marcius Rex, dont il vient d'être question. Quant à Catilina, on comprend qu'il s'intéresse surtout aux « misérables du grand monde », ces blessés de la vie, comme Cicéron les appelle, qui ont connu l'opulence, ce qui leur rend la détresse plus pénible. Comme ils ont mené grandement l'existence, qu'ils étaient joueurs, prodigues, débauchés, ils ont eu bientôt fait de dissiper leur patrimoine et de perdre leur crédit. C'est à cela que songe Catilina dans ses discours, et il l'écoute avec transport parce qu'il leur apporte le moyen de refaire d'un seul coup leur fortune. Comment espère-t-il y arriver? Il n'a jamais varié dans les moyens qu'il indique. Comme il sait que ceux qui possèdent le pouvoir et la fortune ne se laisseront pas dépouiller sans résister, il ne peut espérer réussir que par la violence. Ses moyens de succès sont l'assassinat et l'incendie. Voici dans ses détails le dernier plan qu'il ait imaginé, tel qu'il l'envoyait à ses complices de Rome par un de ses émissaires, Titus Volturcius, qui se fit prendre au pont Mulvius. Catilina devait amener ses troupes de Phaesulae jusque sous les murs de la ville. Il en occuperait les portes au moment même où les conjurés mettraient le feu à Rome. Tout était préparé et réglé d'avance. L'incendie devait être allumé dans 12 quartiers différents, de façon que tout flambât à la fois. Plutarque ajoute qu'on devait tuer tous ceux qui essaieraient de l'éteindre et, pour leur en ôter le moyen, boucher les prises d'eau. Il était facile de profiter du tumulte et de l'épouvante générale pour frapper les gens dont on voulait se défaire. Chacun avait ses victimes désignées. Cétigus s'était chargé de Cicéron. Pendant ce temps, les soldats de Catilina arrêteraient ceux qui tenteraient de fuir, en sorte que personne ne pourrait échapper. La besogne ainsi mise en train, les conjurés de l'intérieur se réuniraient à ceux qui entouraient la ville, et tous s'avançant ensemble, la curée commencerait.
Je sais bien que l'atrocité du projet a fait naître des doutes sur sa réalité. On a cru y voir, ou bien une invention de l'imagination populaire affolée par la peur, ou quelques manœuvres des ennemis de Catilina, qui ont exagéré la faute pour faire excuser la rigueur de la répression.
Mais je ne crois pas qu'ici ces hypothèses puissent être acceptées. Non seulement tous les écrivains de l'Antiquité rapportent ce projet sinistre et donnent sur eux des détails précis, mais Cicéron les a reprochés à Catilina lui-même, en plein Sénat, dans une séance solennelle, et nous ne voyons pas que Catilina s'en soit défendue. Le lendemain, quand il venait de partir, Cicéron a repris les mêmes accusations, en présence de ses complices, qu'il semblait désigner de son geste vengeur.
« Je les vois, disait-il, ceux qui ont réclamé cet horrible office, comme un honneur. »
Fin de citation.
Aurait-il parlé avec tant d'assurance s'il avait craint d'être démenti? Quelques jours plus tard, dans le Senatus consulte où l'on décrétait des supplications aux dieux à propos de l'affaire des Allobroges,
Cicéron était remercié solennellement,
je cite, « d'avoir préservé la ville et ses citoyens du massacre et de l'incendie ». Il semble bien qu'à ce moment, personne ne douta des crimes dont le consul accusait Catilina, et même ce qu'il avait d'excessif et presque de grandiose, et qui a fait naître de nos jours quelques défiances, paraissait convenir tout à fait à celui dont Salluste nous dit que son âme vaste nourrissait sans cesse des projets démesurés, incroyables,
gigantesques.
À la vérité, ceux qui se refusent à l'en croire capable répondent qu'ils n'étaient pas hommes à commettre des crimes inutiles et qu'ils ont peine à comprendre de quelle utilité cela était pour lui.
Catilina, disait Napoléon III en 1865,
ne pouvait méditer une chose aussi insensée. c'eût été vouloir régner sur des ruines et sur des tombeaux.
Fin de citation.
Il est probable que 6 ans plus tard, après la Commune et les événements qui ont suivi,
l'auteur de « La vie de César »
n'aurait pas parlé tout à fait ainsi. Il aurait vu toute une école révolutionnaire employer des moyens terribles, incendier et tuer sans scrupule et au hasard, pour épouvanter la société, et grâce à ces sinistres avertissements, lui arracher le triomphe de leur doctrine. On peut croire que c'était aussi le dessein de Catilina. Même quand on prouverait qu'en soi, la destruction de quelques maisons et la mort de quelques personnes n'étaient pas pour lui d'un grand profit, il est sûr qu'il gagnait de faire peur à tout le monde, de paralyser les résistances, de rendre facile le grand bouleversement qu'il préparait. Nous avons trouvé tout à l'heure dans certains de ses propos l'accent des socialistes de nos jours. Ne peut-on pas dire que ces incendies et ces massacres ressemblent de quelque façon au procès ordinaire de nos anarchistes? Ces rapprochements, qui viennent naturellement à l'esprit, font comprendre comment l'histoire d'aujourd'hui explique celle d'autrefois. Si l'on en croit Salluste, Catilina redoubla d'activité après son second échec. Je cite. À Rome, il se multiplie. Il tend des pièges aux consuls. Il prépare l'incendie de la ville. Il fait occuper les postes avantageux. Lui-même ne sort plus qu'armé et il invite ses amis à faire comme lui. Il les exhorte à être toujours attentifs et préparés. Nuit et jour, il se démène, sans que l'insomnie et le travail puissent un seul instant l'abattre.
Fin de citation.
Il semble bien cependant que, cette fois, son insuccès lui ait ôté quelque chose de sa confiance. Comme il apprend qu'un jeune homme, Lucius Emilius Paulus, va le traduire devant le tribunal qui est chargé de punir les séditieux, légué Plautia de Hui, lui, qui a si fièrement bravé 2 fois ses accusateurs, paraît se troubler. Pour faire croire qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il défie les soupçons, il offre de devancer l'accusation et de se constituer prisonnier. On sait qu'à Rome, certaines personnes avaient le privilège de n'être pas enfermées dans la prison commune. On les donnait à garder à des magistrats, ou même à des particuliers qui en répondaient. Catilina demanda à être internée chez Marcus Lepidus, puis chez le prêteur Marcellus, et comme il refusait de le recevoir, il alla bravement trouver Cicéron et lui fit la même demande. On comprend l'épouvante de Cicéron à cette proposition. Comment lui, qui ne se croyait pas en sécurité dans la même ville que Catilina, aurait-il accepté de vivre dans la même maison? Repoussé de tous les honnêtes gens qui ne voulaient pas se charger d'un prisonnier aussi dangereux, il fut réduit à s'installer chez un compère, Marcus Marcellus, où tout le monde savait bien qu'il serait libre de faire ce qu'il voulait, en sorte que cette manifestation sur laquelle il comptait pour persuader les gens crédules de son innocence, ne lui servit qu'à diminuer le prestige que lui donnait son audace. Rien en ce moment ne semblait lui réussir. Les pièges qu'il tendait au consul étaient déjoués, il ne pouvait former quelque projet qui ne fût aussitôt découvert et prévenu. Ces contretemps devaient lui être très sensibles et le faisaient douter pour la première fois du succès de son entreprise. Est-ce dans un de ces moments d'irritation et de découragement que Salluste a voulu le peindre quand il nous dit, je cite, que ses nuits et ses journées étaient troublées par le souvenir des crimes qu'il avait commis, que ses remords se lisaient sur son teint pâle, dans ses yeux injectés de sang, dans sa démarche, tantôt lente, tantôt précipitée, qui trahissait le désordre de son âme.
Fin de citation.
En même temps, nous apercevons à certains signes qu'il avait perdu de la confiance qu'il témoignait jusque-là à ces grands seigneurs de Rome qui s'étaient fait ses complices. Il ne leur parle plus du même ton. Il leur disait au début, je cite, qu'il connaissait leur courage et leur fidélité et qu'il les tenait pour des gens de cœur. La dernière fois qu'il les réunit, il n'hésita pas à leur reprocher leur lâcheté. Au contraire, les vieux soldats qui lui arrivaient de tous les côtés de l'Étrurie lui paraissaient braves, résolus. Il ne comptait plus que sur eux pour tenter la fortune. Il s'apprêtait à les aller trouver, au plus tôt, et à se mettre
à leur tête.
Surtout, il avait une hâte fébrile d'en finir. Il semble bien que son parti était pris avant même qu'il ne connût le résultat définitif de la dernière élection, et qu'il avait décidé que l'insurrection, quoi qu'il arrivât, éclaterait dans les derniers mois de l'année. Cicéron était au courant de tout ce qui se préparait. Le 21 octobre, il annonça au Sénat que tout était prêt pour une prise d'armes. 6 jours plus tard, Manlius devait commencer les hostilités en Étrurie. Le lendemain, à Rome, on procéderait au massacre.
Le 1er novembre, pendant la nuit, on tenterait de surprendre Praeneste, une ville fortifiée facile à défendre, qui avait déjà servi de place d'armes du temps du jeune Marius et qui le redevint pendant la guerre d'Antoine et d'Octave. Ces nouvelles, dont il attestait la certitude, remplirent les sénateurs d'indignation et de terreur. Il en profita pour leur faire voter le fameux senatus consulte dont César dit que c'est celui auquel on a recours dans les cas extrêmes et désespérés, quand tout est en feu et qu'on ne peut plus sauver l'État que par des moyens extraordinaires. Extremum atque ultimum senatus consultum. C'était la célèbre formule qui ordonnait aux consuls de veiller au salut de la République et leur conférer l'autorité nécessaire pour la sauver. Il semble que Cicéron, aussitôt qu'il fut armé de ses pouvoirs, aurait dû s'en servir. Il n'avait pas de temps à perdre. En frappant sans retard le chef du complot et ses partisans, il pouvait prévenir la guerre civile. Quelques-uns de ses amis trouvaient qu'il n'en avait pas seulement le droit, mais que c'était son devoir. Lui-même, quand il se rappelait les exemples qu'avaient donnés les aïeux, se faisait d'amers reproches. Je cite « Je m'accuse d'inertie. Je rougis de ma lâcheté. »
Fin de citation.
Il s'en voulait de laisser ce précieux senatus consulte enfermé dans sa gaine, je cite, comme une épée dans son fourreau. Pourquoi donc n'a-t-il pas pris à ce moment une initiative plus vigoureuse? D'abord, il faut bien l'avouer, les résolutions énergiques n'étaient pas dans son caractère. Mais de plus, il avait ici des raisons d'hésiter qui se seraient imposées à de plus fermes que lui. Dans les circonstances graves où il se trouvait, quand il savait que tant de gens étaient prêts à se mettre du côté de Catilina, il ne pouvait tenter un coup d'autorité qu'à la condition d'être sûr qu'il serait approuvé et suivi de tout son parti. Or, ce parti était celui des modérés, des conservateurs,
et la pratique des affaires lui avait appris
que l'énergie, la persistance, la décision ne sont pas leurs qualités ordinaires, et que, comme il le dit, le gouvernement est en général mieux attaqué qu'il n'est défendu. Il connaissait ses amis à merveille et les divisait en 2 catégories très différentes entre elles, mais également dangereuses pour la République. « Il y a, disait-il, ceux qui ont peur de tout et ceux qui n'ont peur de rien. Quel fonds pouvait-on faire sur les premiers qui restent chez eux dans les moments décisifs ou quittent Rome quand il faudrait aller voter au Sénat? Mais peut-être fallait-il se méfier encore plus des autres. Ce sont ceux qui, sous le prétexte qu'ils n'ont pas peur, ne veulent pas croire aux dangers qu'on leur signale et empêchent de prendre des précautions pour les éviter. Ils étaient fort nombreux dans l'entourage de Cicéron. Parmi ces hommes d'esprit et ces gens du monde auxquels convient un air de scepticisme élégant et qui craignent avant tout de paraître crédules et dupés. Ils avaient cette tactique ordinaire de fermer les yeux aux complots qu'on leur signalait, soit pour n'avoir pas l'air de les craindre, soit pour échapper à l'ennui d'en être d'avance préoccupé.
Cicéron s'irritait de cette obstination d'incrédulité.
Mais il comprenait bien qu'en présence de tant d'ennemis déclarés ou secrets, de tant de gens faibles et complaisants, disposés d'avance à tout excuser, il ne pouvait entrer en campagne qu'avec un parti uni et convaincu. « Tu ne mourras, disait-il à Catilina, que quand il ne se trouvera plus un seul homme qui puisse croire que ta mort est injuste. » C'est ce qui explique les efforts désespérés qu'il a faits pour qu'il ne restât aucun doute dans l'esprit de personne. Il lui fut très difficile d'y réussir. Peut-être a-t-il eu moins de peine à vaincre la conjuration qu'à en démontrer l'existence. Il était pourtant inévitable qu'elle fût un jour ou l'autre découverte, de façon à convaincre les plus incrédules. En supposant même que Catilina pût dissimuler les réunions qu'il tenait à Rome, le rassemblement de troupes qui se formait à Phaé-sous-la-Haie ne pouvait passer inaperçu. De sinistres avertissements arrivaient de tous les côtés. Une nuit, Cicéron fut réveillé par une visite fort inattendue. C'était Crassus, qui semblait jusque-là soutenir Catilina, mais qui avait pris peur depuis qu'il voyait clairement que les conjurés en voulaient à la propriété et à la fortune. Crassus venait apporter à Cicéron des lettres qu'il avait reçues. Il y en avait une pour lui, qu'il avait lue, d'autres pour des sénateurs qu'il n'avait pas voulu ouvrir de peur de se compromettre. Celle qui lui était adressée et qui ne portait pas de signature annonçait qu'il se préparait un grand massacre et lui conseillait de s'éloigner de Rome. En même temps, on reçut de graves nouvelles de l'Étrurie. Je cite « Un sénateur, Lucius Suenius, apporta dans le Sénat des lettres qu'il disait arrivées de Faesulae, dans lesquelles on lui mandait que Manlius avait pris les armes le 27 octobre et qu'il avait avec lui une troupe nombreuse. » Fin de citation. Aucun doute n'était plus possible. Il ne restait à Catilina qu'à rejoindre ses soldats au plus vite. Avant de partir, il réunit une dernière fois ses partisans, non pas chez lui où la réunion pouvait être surprise et dispersée, mais chez Porcius Laeca, un de ses amis, qui demeurait dans la rue des Taillandiers, située probablement dans quelque faubourg solitaire. C'était pendant la nuit du 6 novembre. Après avoir arrêté les dernières dispositions et distribué les rôles à chacun pour la grande prise d'armes, il ajouta qu'il ne partirait content que si on le débarrassait d'abord de Cicéron, je cite, « qui était un grand obstacle à tous ses desseins ». Fin de citation. La proposition fut assez froidement accueillie. On savait que Cicéron était sur ses gardes. Mais enfin, après quelques hésitations, deux des conjurés, Caius Cornelius, un chevalier romain, et le sénateur Vargunteius, s'offrirent à tenter l'entreprise. Ils promirent d'aller cette nuit même, au petit jour, avec des hommes armés, comme pour saluer le consul, et de le frapper dans son atrium, tandis que, selon l'habitude, il recevait ses clients. Le danger était pressant, mais Curius, l'espion de Cicéron, l'avait fait prévenir et il avait pris ses précautions. Quand les assassins se présentèrent, malgré leur insistance pour entrer, on leur ferma la porte et ils s'en retournèrent chez eux. En même temps qu'il échappait à ce péril, le consul était informé des résolutions qu'avaient arrêtées les conjurés pendant la nuit. Il fallait avant tout prendre des mesures pour les déjouer et convoquer immédiatement le Sénat. C'est ce qu'on fit sans retard. Le Sénat se réunit donc dans l'après-midi du 7 novembre, et Cicéron y prononça la première catilinaire.